Conférence de l'Université populaire de Michel Onfray, le génie de l'hédonisme, 8e année, la fabulation freudienne, Sigmund Freud. Aujourd'hui, une exégèse du corps freudien.
Eh bien, bonsoir et merci d'être là. Merci d'être là pour cette 8e année. Donc, ce sera Freud, bien sûr, puisque vous connaissez le principe de la contre-histoire de la philosophie. Il s'agit d'envisager deux choses, soit des auteurs que nous connaissons déjà, de nom, Épicure, par exemple, Montaigne, Spinoza et quelques autres, mais de les aborder de manière un peu transversale, c'est-à-dire pas exactement comme on le fait à l'université. Et puis on peut aussi aborder des philosophes qui ne sont pas connus, qu'on a totalement oubliés, parler de l'épicurisme par exemple, de Philodème de Gadara ou de Diogène de Nanda, qui sont des philosophes dont on n'a pas vraiment beaucoup parlé, et, ou d'autres comme les gnostiques licencieux, ou d'autres comme un certain nombre de libertins qu'on prétend érudits, et que moi j'ai préféré nommer baroque, pour essayer d'expliquer qu'il y a une contre-histoire de la philosophie, qui bien sûr est une histoire de la philosophie, une autre histoire d'une autre philosophie, et qui nous montre une philosophie hédoniste, sensualiste, matérialiste, athée, subversive, parfois révolutionnaire. Et c'est la proposition que je vous fais donc depuis 7 ans, et pour cette 8e année également. On ne pouvait pas ne pas parler de Freud, bien sûr, quand le temps passant, on découvre qu'il va falloir organiser l'articulation du 19e siècle et du 20e siècle. Il faut considérer Freud. Comment peut-on le considérer ? J'avais des lectures de Freud qui étaient anciennes. Je vais vous en parler un petit peu. Et puis, je pensais que peut-être on pouvait imaginer que Freud était un philosophe vitaliste et que sur ce terrain du vitalisme, il y aurait eu quelque chose comme une continuation entre Jean-Marie Guyot, qu'il ne connaissait pas, mais Schopenhauer, qu'il connaissait très bien, Nietzsche, avec lequel il entretenait un rapport un peu particulier, vous verrez, on envisagera toutes ces questions-là. Et il me semblait que peut-être il y avait un vitalisme, il parle du plasma germinal, par exemple, Freud, et régulièrement, même s'il parle d'un psychisme qui est invisible, vous verrez, il a tous les caractères du divin, l'inconscient freudien, mais je pensais qu'on pouvait l'intégrer dans cette logique-là. Et je me suis dit, son temps viendra et il faudra envisager une façon singulière de vous parler de Freud, du freudisme et de la psychanalyse. Cette contre-histoire, finalement, c'est une histoire nietzschéenne de la philosophie. Qu'est-ce qu'une histoire nietzschéenne ? Moi, je dis ce que sont mes attendus. Je ne vous dis pas, je vais vous faire une histoire objective de la philosophie. Je vous propose ma subjectivité, je vous dis quelle subjectivité elle est, en quoi elle consiste, et précisément une lecture nietzschéenne, c'est une lecture qui s'appuie sur 2 ou 3 idées qui sont présentées notamment dans la préface au Gai Savoir, et j'ai déjà eu l'occasion de vous parler de cette préface, dont je pense qu'elle est un autre discours de la méthode, qu'elle dépasse d'ailleurs le discours de la méthode cartésien. Et je voudrais vous lire quelques lignes de cette préface. Nietzsche nous dit « le travestissement inconscient », le mot de lui, hein, « le travestissement inconscient de besoins physiologiques sous les masques de l'objectivité, de l'idée, de la pure intellectualité est capable de prendre des proportions effarantes, et je me suis demandé assez souvent si, tout compte fait, la philosophie n'aurait pas absolument consisté en une exégèse du corps et un malentendu du corps. » Il savait de quoi il parlait, bien sûr, Nietzsche, et pour ceux et celles et ceux qui ont assisté au cours sur Nietzsche l'an dernier, vous avez vu comment on peut faire une lecture nietzschéenne de Nietzsche et montrer comment le corps de Nietzsche est la grande santé, même si c'est la grande faiblesse, cette grande faiblesse est une grande santé. Eh bien, j'ai essayé de faire fonctionner ça aussi avec Freud, et c'est ce que je vais vous proposer cette année. Il faudra donc que je parle de la biographie de Freud, et je voudrais rapidement vous parler de ma propre biographie, puisque j'ai été déniaisé il y a quelque temps, et que je dois vous expliquer les raisons de ce déniaisement, puisque j'ai souscrit d'une certaine manière à la vulgate freudienne. J'ai jamais été vraiment freudien au point de souscrire aux détails de l'analyse freudienne, mais comme à peu près tout le monde, je souscrivais un certain nombre de propositions freudiennes, la sublimation, l'existence de l'inconscient, le complexe d'Édipe, ou ce genre de choses. Et donc je partais sur cette proposition qu'effectivement il y avait un acquis freudien qui était scientifique, puisque on l'avait proposé comme tel. Petite autobiographie à Freud, si vous le permettez. Moi, j'ai découvert Freud quand j'étais jeune homme, à 13-14 ans, sur le marché d'Argentan. Il y avait une dame qui vendait des livres, et j'achetais beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres. Donc j'ai lu beaucoup de sottises, mais beaucoup de choses intéressantes aussi. Et dans ces choses intéressantes, il y avait, parmi d'autres, Nietzsche, Marx et Freud. Ça tombait bien. Il y avait des choses moins intéressantes. Il y avait aussi des choses très intéressantes. C'est à l'époque où je découvre le surréalisme, André Breton, les surréalistes un peu qu'on dit mineurs, si vous voulez, Cravant, Vacher, Rigaud, ces gens-là. Et puis Marx et Nietzsche également, bien sûr, c'est-à-dire l'anticristianisme de Nietzsche, on dira, et puis l'anticapitalisme de Marx, tout ça me convenait. Et il y avait, chez Freud, notamment 3 essais sur la théorie de la sexualité, puisque c'est l'ouvrage que j'ai lu à cette époque-là, des considérations et qu'il faisait du bien de lire sur l'onanisme, la masturbation ou l'homosexualité. On se dit, effectivement, on m'a longtemps dit... 4 années de suite dans un pensionnat où je me trouvais, que la masturbation ça rendait sourd, que ça faisait pousser les pieds, que ça faisait grandir les oreilles, que ça enlevait du cerveau, qu'on risquait d'avoir des enfants anormaux. Enfin, vous connaissez le discours répressif sur cette question de la masturbation, et Freud vous dit non, normal, normal. Qui ne sait pas masturber parmi vous, levez la main. Il y aura des manchots qui lèveront la main, mais autrement. Et d'un seul coup, on découvre un philosophe qui nous dit « c'est normal, ça fait partie d'une évolution psychique normale, l'homosexualité aussi ». Quand on a tripoté son copain dans les douches de la piscine, on se dit « oh là là, c'est problème, danger, enfer, et anormalité, ce genre de choses ». Freud dit « non, normal, ça fait partie d'un temps évident dans la constitution du psychisme d'un enfant ou d'un adolescent ». Et ce chapitre sur la sexualité infantile a été pour moi une vraie bouffée d'air pur. C'était vraiment un livre éclairant pour le jeune garçon que j'étais. Il y a eu ensuite l'institution scolaire, c'est-à-dire que je découvre ça comme un autodidacte, et j'entre en classe terminale, je connais un petit peu Freud, donc, mais on me dit, voilà, Freud est un philosophe, puisqu'on nous le présente comme tel, puisque l'institution nous présente cet homme comme un philosophe, et que le professeur que j'avais nous disait, lisez ceci, cela, etc., il nous avait dit, dans cette bibliographie, lisez Totem et Tabou, lisez l'introduction à la psychanalyse, ce que j'avais fait... consciencieusement à l'époque, 16 ans, 17 ans, donc quand je suis en classe terminale, je considère effectivement qu'il n'y a pas de raison de douter de Freud. On ajoute à cela l'institution universitaire, c'est-à-dire que je rentre à l'université après le bac à 17 ans, je m'inscris dans une unité de valeurs de psychanalyse et j'assiste à un cours de psychanalyse donné par un professeur qui avait très bien articulé son cours, puisque... on examinait les grands concepts de la psychanalyse, sublimation, inconscient, pulsion, complexe d'Édipe, etc. Les névroses, psychonévroses, paranoïa, schizophrénie, etc., à la lumière des 5 psychanalyses qui nous permettaient, on en reparlera dans le courant de cette année, qui nous permettaient d'examiner le cas, comme par hasard, d'une psychose, d'une névrose, etc., etc. Et on avait, avec l'homme au loup, avec le président Schreber, avec un certain nombre d'autres cas, des explications freudiennes qui nous montraient qu'effectivement, il y avait une doctrine, une théorie qu'elle était susceptible de soigner, puisque tous les gens dont on nous disait qu'ils avaient souffert d'un certain nombre de symptômes, eh bien, on nous disait qu'après la cure, ils avaient vu les symptômes disparaître et qu'ils avaient été véritablement guéris. Le professeur le disait, enfin, Freud l'écrivait, le professeur le disait, l'enseignement universitaire le confirmait, donc on n'a pas de raison de douter de ce genre de choses. Par ailleurs, je suis devenu moi-même professeur de philosophie dans un lycée et je me suis retrouvé de l'autre côté de la barrière à enseigner la philosophie comme on nous demande de l'enseigner avec un programme qui lui-même nous dit, voilà, les notions au programme. J'étais dans un lycée technique, mais les notions, des notions, conscience, raison, liberté, etc. Impossible de traiter la notion de conscience sans parler de l'inconscient chez Freud. Et donc j'ai enseigné la première topique, la logique de l'articulation entre inconscient, préconscient, conscient, la censure, comment ça fonctionnait, les désirs, quand ils se manifestent, quand ils ne se manifestent pas, qu'ils sont refoulés, le refoulement qui crée des psychoses, des névroses ou des symptômes particulièrement, la cure qui permet, quand on a nommé ce refoulement ou conscientisé ce refoulement, de voir disparaître les symptômes, je parlais du complexe d'Édipe, etc. Les stades, oral, anal, sadique anal, etc. Enfin, chacun avait l'impression que je lui parlais personnellement. Quand on fait un cours sur l'impératif catégorique chez Kant ou le cogito chez Descartes, les élèves, évidemment, sont moins intéressés que quand on leur parle du complexe d'Édipe, parce qu'on leur parle de leur père, de leur mère, de leur rapport à leurs propres parents. Et je sentais la puissance qu'il y avait dans ces cours-là, la possibilité d'accéder à la psyché, à l'âme de mes élèves. Et je me disais qu'il y avait une dangerosité à manier ces concepts, parce qu'effectivement, on pouvait s'approprier un certain nombre d'âmes fragiles qui étaient très désireuses tout de suite de faire de celui qui a porté les concepts freudiens une espèce de gourou auquel on se serait soumis, corps et âme, en lui demandant la solution à la totalité de ses problèmes. Et moi, je passais à autre chose parce que je n'étais pas psychanalyste, mais je savais bien que ça produisait des effets chez mes élèves. Donc, pendant 20 ans, bon an, mal an, j'ai enseigné les concepts freudiens, la psychanalyse, sans remettre en cause ce qui constitue, disons, la vulgate. Et puis, il y a eu l'institution éditoriale. C'est aussi une institution que de voir Freud dans des grandes collections, Presse universitaire de France, par exemple, Gallimard, qui pouvait créer une collection de psychanalyse, Livre de poche. Enfin, quand on a 20 ans, on ne va pas douter de son professeur, du baccalauréat, de l'université, des institutions, des éditeurs, des éditions. On nous a dit que Freud, c'était ça, donc c'est ça. Il se fait que on constitue ce que j'appelle des cartes postales dans cette aventure, et il y a des cartes postales freudiennes, à l'évidence. Les cartes postales, ce sont des clichés ou des raccourcis qui sont souvent des résumés ou des simplifications, et tous les philosophes ont leurs cartes postales associées. On sait bien, par exemple, que prenez l'école d'Athènes de Raphaël, cette peinture magnifique où vous avez une somme de clichés de la philosophie antique. Si vous vous souvenez un petit peu, vous avez Platon qui montre avec son index le ciel, et puis Aristote pendant ce moment-là qui, lui, avec le même index, montre la terre. Eh bien, c'est une façon de dire effectivement que le ciel des idées platoniciens, c'est la vérité de Platon, et qu'en montrant ce qu'il y a au-dessus de nous, de notre tête, on montre l'idée pure, le concept. Et quand Aristote, lui, nous montre le sol, eh bien, c'est la même chose, Aristote est le philosophe de la réalité concrète, même quand il s'occupe de métaphysique, c'est un personnage qui ne part pas dans un monde des idées. Vous avez Diogène avec son tonneau, qui est une fiction, vous savez, puisque le tonneau est une invention gauloise et que Diogène préexiste les Gaulois, donc à l'évidence, il était probablement dans une amphore. Et puis vous avez Montaigne dans sa tour, et puis vous avez, enfin voilà, un certain nombre de clichés de ce type-là. Et puis vous avez des clichés, des cartes postales qui, pour le coup, sont des cartes postales théoriques. Alors là, pour le coup, l'allégorie de la caverne, le cogito de Descartes, l'impératif catégorique de Kant, le surhomme de Nietzsche, la lutte des classes chez Marx, l'inconscient chez Freud, bien sûr. Et on enseigne ces cartes postales parce que, d'une certaine manière, l'université, c'est une machine à fabriquer des cartes postales. C'est à l'université que ces cartes postales sont fabriquées. Et l'école, elle est une machine à dupliquer, distribuer et diffuser les cartes postales. Donc, à l'évidence, on se retrouve devant un présentoir relativement bien fait, qui fait qu'au bout du compte, eh bien, on souscrit vaguement à cette vulgate constituée de clichés. À l'évidence, le cliché n'est pas la vérité. Eh bien, les cartes postales freudiennes, mais les cartes postales philosophiques, fonctionnent exactement de la même manière. Il s'agit de donner envie de lire, de connaître, de découvrir ou d'en savoir un petit peu plus. Je vous propose donc 10 cartes postales. Et j'aurai l'impudence de vous proposer 10 contre-cartes postales. Et ces 10 contre-cartes postales constitueront l'enseignement de cette année. Première carte postale, c'est dit classiquement partout, encyclopédie, dictionnaire, livre de philosophie pour les élèves, pour les étudiants. Les journalistes reprennent abondamment ce genre de choses parce que ça fait aussi partie de la vulgate, le fonctionnement journalistique sur ces questions-là. Première carte postale, Freud a découvert l'inconscient tout seul à l'aide d'une auto-analyse extrêmement audacieuse et courageuse. Ça, c'est ce qu'on dit habituellement. Vous aurez ça dans les légendes, vous aurez ça dans la biographie qui est une hagiographie d'Ernst Jones. 3 gros volumes de la vie de Freud qui ont été constitués comme une statue, une espèce de sculpture qui est là, tout à la gloire du héros. Donc voilà, il y a un moment, vous verrez, on entrera dans le détail, je ne vais pas détailler ce soir, mais on entrera dans le détail de ce genre de choses. Il y a un moment où Freud perd son père et il nous dit que c'est un grand moment dans l'existence d'un être et qu'il commence à se retourner sur lui-même pour voir qui il est, ce qu'il a dans son inconscient et qu'en analysant ses rêves, et puis après les lapsus, les actes manqués ou ce genre de choses, eh bien il a découvert un certain nombre de choses extrêmement importantes, notamment la vérité du complexe d'Édipe et qu'il faut construire sur cette introspection une vérité universelle, une discipline qui va s'appeler la psychanalyse. Carte postale numéro 2, le lapsus, donc, l'acte manqué, le mot d'esprit, l'oubli des noms propres, la méprise, constitue une psychopathologie par laquelle on accède à l'inconscient. Ça, c'est un livre dont je vous parlerai aussi, qui s'appelle Psychopathologie de la vie quotidienne. Psychopathologie parce qu'effectivement, il y a une pathologie des petites méprises, des petites bévues. Vous dites un mot à la place d'un autre, vous dites une chose à la place d'une autre chose qu'on attendait, vous oubliez vos clés, vous faites un numéro de téléphone et vous arrivez chez quelqu'un d'autre, c'est pas celui que vous vouliez appeler. Enfin, tous ces genres de petites choses, de petites misères psychopathologiques, elles vous arrivent, elles nous arrivent en permanence. Et Freud nous dit, attention, ce sont des signes qui nous conduisent, si on sait les interpréter, directement à l'inconscient. Troisième carte postale, le rêve est interprétable, et en tant qu'expression travestie d'un désir refoulé, il est, l'expression est de lui, la voie royale qui mène à l'inconscient. Vous rêvez, nous rêvons, on ne se souvient pas du rêve, souvent, on les refoule, mais si ce soir vous décidez demain matin de vous souvenir du rêve ou des rêves que vous aurez fait dans la nuit, vous verrez, vous vous souviendrez de bribes, de morceaux ou de fragments de rêve, qui sont extravagants, bien sûr, qui... Freud vous le dirait, signifie quelque chose. Il faut le décodeur. Et le psychanalyste, c'est le décodeur de ces rêves qui sont éminemment symboliques. Il y a une loi au rêve, condensation, déplacement, présentation, je vous expliquerai tout ça. Mais si vous êtes un peu informé, nous dit Freud, eh bien vous allez découvrir le symbole derrière le rêve. Et comme par hasard, à chaque fois que Freud se met au symbole, il découvre toujours les mêmes choses. Et notamment cette fameuse histoire du complexe d'Édipe. Quatrième carte postale... La psychanalyse est une discipline qui procède d'observations cliniques, et elle relève de la science. Ce sont des choses qu'on nous dit parce que ce sont des choses que dit Freud. Freud nous dit, par exemple sur sa théorie de la séduction, qu'il a appuyé sa thèse sur 18 cas et qu'il a examiné 18 cas. Vous verrez, il n'y a pas du tout 18 cas, il les a totalement inventés, et quand on lit les correspondances avec Fliss... Eh bien, on découvre que quand il dit « j'ai toujours pas de boulot, j'attends des gens, j'ai pas réussi à mener à bien une psychanalyse, etc. », eh bien, vous faites le total des individus qu'il a rencontrés. Il ne peut pas avoir 18 cas qui, sur 18, donc auraient été 18 cas d'hystérie lui permettant de proposer sa théorie de la séduction. Et de fait, on verra que la science, chez lui, c'est une protestation. Il veut être un scientifique. Il nous dit « il y a Copernic, il y a Darwin et moi-même ». Copernic parce qu'il nous dit qu'effectivement la Terre n'est pas au centre du monde, Darwin parce qu'il nous dit que l'homme n'est pas au centre de la création et que l'homme descend du singe, pour aller vite, et il dit « et moi-même » parce que je fais savoir que le moi n'est pas non plus la vérité d'un être et que la vérité d'un être c'est son inconscient. Mais il nous dit « j'ai observé, j'ai regardé, j'ai fait de la clinique ». J'ai beaucoup écouté, je me suis mis au chevet des patients et j'ai découvert un certain nombre d'informations. Ça, c'est la carte postale. Carte postale numéro 5. Freud aurait découvert ou a découvert une technique qui, via la cure et le divan, on consacrera un certain temps à la question de la cure et du divan, permet de soigner et de guérir les psychopathologies. Vous verrez, le chapitre consacré au divan s'appelle « Les ressorts du divan ». Donc il a inventé une technique et on allonge les gens, il parle à l'association libre, vous avez le psychanalyste qui est derrière, et en temps normal, eh bien, on soigne les gens, on les guérit. Vous arrivez avec des symptômes, vous vous allongez sur le divan, il y a une technique particulière, et au bout d'un certain temps, les symptômes disparaissent et vous êtes guéri. Carte postale numéro 6, la conscientisation d'un refoulement, obtenu lors de l'analyse, donc, hein, elle génère la disparition des symptômes. C'est-à-dire que si vous avez des problèmes de nature psychique, c'est qu'il y a eu des refoulements. Si on vous dit ce que sont ces refoulements, si on vous dit ce qui a été refoulé, alors à partir de ce moment-là, vous verrez, comme par hasard, les symptômes disparaître. Il suffit de dire, voilà, le refoulement qui vous hante, qui vous habite, qui vous travaille, qui produit chez vous les symptômes, est celui-ci. Et la plupart du temps, c'est un refoulement de nature sexuelle, et très vite, vous verrez, c'est un refoulement de nature édipien. Eh bien, ce refoulement-là, quand on l'a conscientisé, théoriquement, il disparaît. C'est ce que dit la théorie. Carte postale numéro 7, le complexe d'Édipe est universel. Le complexe d'Édipe, vous le connaissez, c'est peut-être l'espèce de socle de la psychanalyse. Le complexe d'Édipe, vous verrez qu'il a été découvert simplement par une espèce de postulat. La découverte du complexe d'Édipe chez Freud est assez sidérante. Il croit qu'il n'a pas pu ne pas voir sa mère nue et il s'est mis à la désirer. Il le pense, il n'est pas très sûr, mais à partir de ça, il ajoute que c'est le cas de tout le monde. Et tout le monde a vécu ça, c'est-à-dire, pour les petits garçons, désir sexuel de leur propre mère et désir d'en finir symboliquement avec le père qu'ils veulent tuer, désir de meurtre du père, pour pouvoir s'unir à leur propre mère. Et Freud nous dit, voilà ce qu'est le complexe d'Édipe. Tout le monde a vécu ça, depuis toute l'Antiquité qui qui est évidente, puisque finalement Sophocle nous raconte ces choses-là, mais aussi depuis la préhistoire, nous dit Freud, et pour toujours. Le complexe d'Édipe est quelque chose qui est archétypal, il est là depuis que les hommes sont, et il durera autant que les hommes dureront. Eh bien, vous verrez que ce complexe d'Édipe n'est pas du tout universel, qu'il est tout à fait particulier, qu'il est tout à fait singulier, qu'il y a même des civilisations, je vous renvoie à Hérodote, par exemple, et aux Égyptiens. Voilà pourquoi, d'ailleurs, ça excitait tant Freud, l'Égypte et l'égyptologie. Il y a des endroits dans l'histoire, des moments dans l'histoire, où, de fait, la sexualité entre une fille et son père, par exemple, puisque ce sera la grande obsession de Freud, eh bien, elle n'est pas interdite, puisqu'elle est même conseillée. Puisque, par exemple, dans des moments particuliers de l'Égypte, la Haute Égypte, eh bien, ce sont les parents, pères, etc., qui initient leur fille à la sexualité et que après elles peuvent effectivement avoir des relations sexuelles avec de manière exogamique en dehors de la famille, mais que a priori l'initiation est endogamique. Donc on verra que ce complexe d'Édipe est une fiction proposée par Freud. Carte postale numéro 8, la résistance à la psychanalyse signifie l'existence d'une névrose chez le sujet rétif. Et ça, c'est souvent ce qu'on dit, on vous dit « Ah, vous n'êtes pas d'accord avec la psychanalyse, alors il faut vous faire psychanalyser. Vous avez un problème avec la psychanalyse. » Et évidemment, complexe d'Édipe aidant, vous avez évidemment un problème avec votre père. Évidemment, vous n'avez pas réussi à tuer votre propre père, et dans des logiques édipiennes, vous êtes resté anormalement attaché à votre propre mère, ce qui explique, à l'évidence, que vous n'ayez pas envie de vous allonger sur un divan, puisque sur le divan, vous découvririez bien sûr qu'au bout du compte, ce qui vous travaille, ce qui vous rend la vie absolument impossible, c'est ce fameux complexe d'Édipe qui est là depuis toujours. Carte postale numéro 9, la psychanalyse est une discipline émancipatrice. Et ça, on verra un certain usage de la psychanalyse, notamment en 68 et après 68, dans des logiques dites de libération, ont contribué à cette fiction que la psychanalyse nous libérerait. Et vous verrez, et nous verrons, il y a plein d'endroits dans l'œuvre complète de Freud où Freud nous dit très précisément qu'il ne faut pas libérer la sexualité, que la libération sexuelle n'est pas une bonne chose. Bien sûr, la sexualité réprimée par le judéo-christianisme ou par le monothéisme génère les névroses, mais d'une certaine manière, on aurait plus de névroses encore s'il n'y avait pas d'interdit. Donc Freud n'est pas du tout un penseur qui émancipe ou qui libère. Les freudiens, peut-être. Un certain usage de Freud et du freudisme, certainement. Un passage par Lacan, bien sûr. Et effectivement, l'effet mai 68 auront pu laisser croire ce genre de choses, mais le freudisme n'est pas une pensée émancipatrice. Et puis, carte postale numéro 10, Freud incarne la permanence de la rationalité critique et il est un représentant aujourd'hui de la philosophie des Lumières. Et si, effectivement, on met en perspective Freud avec Voltaire, parce qu'on lira l'athéisme, par exemple, de l'avenir d'une illusion ou de malaise dans la civilisation comme une espèce de livre voltairien, alors à l'évidence, on peut faire de Freud un philosophe des Lumières, philosophe qui incarne en plein XXe siècle, début du XXe siècle plutôt, et qui incarne la grande tradition de la philosophie des Lumières que nous connaissons bien. Voilà 10 cartes postales avec lesquelles il nous faudra jouer pour voir ce qui est juste, ce qui est faux, pourquoi on a fabriqué ces cartes postales, pourquoi plutôt ça qu'autre chose. Je dirais que c'est moi qui vous les fabrique aussi et qui vous les propose. J'ai prélevé dans l'œuvre complète les choses qui me semblent les plus évidentes quand vous croisez les encyclopédies, les dictionnaires ou les discours qui sont tenus sur Freud, sur la psychanalyse et sur le freudisme. On pourrait en ajouter d'autres, bien sûr, et d'autres pourraient ne faire qu'une carte postale, à l'évidence. C'est une proposition théorique pour avancer, c'est une proposition pour un plan, puisque c'est d'une certaine manière le plan de cette année que je vous propose. Comment faire donc pour intégrer Freud dans la contre-histoire de la philosophie? Je vous le disais tout à l'heure, j'avais souhaité l'intégrer comme un philosophe vitaliste, en montrant qu'il y avait bien sûr la doctrine habituelle, le divan, la cure, la thérapie ou ce genre de choses, mais qu'il y avait une fondation, un socle philosophique, et j'avais souvenir, mais de vagues souvenirs, que Freud avait lu Schopenhauer et que le monde comme volonté et comme représentation n'avait pas été un livre inutile dans la généalogie de la psychanalyse. Il y a un philosophe qui s'appelle Nicolas Hartmann qui lui-même a fait une philosophie de l'inconscient d'inspiration schopenhauerienne qui a beaucoup compté dans la fabrication de la pensée freudienne, et il me semblait que peut-être on pouvait aller voir du côté du vitalisme pour faire de Freud le philosophe vitaliste qu'on ne présente jamais comme tel. Je vais vous citer à nouveau un texte un petit peu plus long de Nietzsche, parce que finalement vous verrez que c'est l'exergue de cette année que nous allons consacrer à Freud. C'est un texte qui reprend les thèses du gai savoir et qu'on trouve dans Par-delà le bien et le mal. Nietzsche écrit « Ce qui nous pousse à n'accorder aux philosophes, dans leur ensemble, qu'un regard où se mêlent méfiance et raillerie, ce n'est pas tant de découvrir à tout bout de champ combien ils sont innocents, combien de fois et avec quelle facilité ils se trompent et s'égarent. Bref, quelle puérilité est la leur, quel enfantillage. C'est de voir avec quel manque de sincérité ils élèvent un concert unanime de vertueuses et bruyantes protestations dès que l'on touche, même de loin, au problème de leur sincérité. Ils font tous comme s'ils avaient découvert et conquis leurs opinions propres par l'exercice spontané d'une dialectique pure, froide et divinement impassible, à la différence des mystiques de toute classe qui, plus honnêtes et plus balourds, parlent de leur inspiration, alors que le plus souvent, c'est une affirmation arbitraire, une lubie, une intuition, et plus souvent encore un vœu très cher, mais quintessentié, et soigneusement passé au tamis, qu'ils défendent par des raisons inventées après coup. Tous sont, quoi qu'ils en aient, les avocats et souvent même les astucieux défenseurs de leurs préjugés, baptisés par eux « vérité ». Ma proposition cette année, c'est de faire cette exégèse du corps freudien, pour utiliser la formule du gai savoir, et c'est de voir comment il y a des affirmations arbitraires, je reprends le texte de Nietzsche, hein, les lubies, les intuitions, les vœux très chers mais quintessentiés. Vous verrez qu'on a l'impression que ça a été écrit pour le complexe d'Œdipe, parce que le moment où Freud dit qu'il a découvert le complexe d'Œdipe n'est jamais qu'un vœu très cher, qui deviendra quintessentiel, mais c'est un désir qu'il a. Et quand on lit la lettre qu'il écrit à William Fliss, c'est un livre extrêmement important, la correspondance à Fliss, parce que justement on voit les coulisses, et dans les coulisses on apprend beaucoup de choses. À ce moment-là, effectivement, on découvre qu'il y a un travestissement chez Freud comme chez d'autres, entendons-nous bien, et comme chez moi probablement. Il n'y a pas question de considérer qu'on échappe à cette règle qu'on pose pour quelqu'un en particulier, ça marche en général. Il n'y a que du travestissement d'instinct, il n'y a que de la pulsion, que de la passion, il n'y a que des corps, il n'y a que des autobiographies, il n'y a que des biographies derrière les ouvrages. Voilà pourquoi cette contre-histoire, elle est une histoire nietzschéenne. Elle est une histoire qui nous dit, allez voir du côté de la biographie, et vous verrez que ça éclaire magnifiquement l'œuvre. Freud avait un souverain mépris pour tout ce qui était biographie et explication biographique de son travail. Il n'était pas question pour lui, par exemple, de dire que peut-être l'émergence de ce qui s'appelle chez lui la pulsion de mort pouvait entretenir une relation particulière avec le fait qu'il ait perdu sa fille, avec le fait qu'il y a eu la guerre 14-18, avec le fait que ses enfants, ses garçons se sont retrouvés mobilisés, et que peut-être, et ça n'est pas illégitime, on est par-delà le bien et le mal dans cette aventure, on peut comprendre qu'un père puisse être effectivement foudroyé par la mort de sa fille et qu'il puisse être inquiet de la mort possible de ses enfants et qu'il puisse inventer le concept de pulsion de mort. On verra d'ailleurs que c'est un concept qu'il emprunte à d'autres, comme il a beaucoup emprunté. Mais Freud ne souhaitait pas qu'on mette en perspective sa pensée, ses concepts, son œuvre et sa vie. Voilà pourquoi, d'ailleurs, il a pris soin, avec les siens, avec Anna Freud, et puis avec un certain nombre de disciples, d'écrire, de faire écrire des légendes de son vivant. La biographie d'Ernst Jones est vraiment une hagiographie, c'est-à-dire c'est vraiment à la gloire du grand homme, parce qu'il s'agit de cacher l'histoire du travestissement freudien de cet inconscient. Je vous le redis, c'est un mot de Nietzsche, hein, en doctrine, parce qu'il y a derrière la doctrine un inconscient, une physiologie, et cet inconscient, il n'est pas que freudien. Le grand coup de génie de Freud, c'est de laisser croire que quand il s'agit aujourd'hui d'inconscient, quand on parle d'inconscient, c'est toujours l'inconscient freudien. Or, il y a un inconscient depuis très longtemps. Nombre de philosophes ont parlé d'un inconscient sans qu'ils aient été évidemment freudiens, ni même pré-freudiens. Les petites perceptions de Leibniz, par exemple, ou le vileux le vouloir de Schopenhauer, pour ceux qui ont assisté au cours sur Schopenhauer, ou la volonté de puissance chez Nietzsche, eh bien, de fait, ce sont des puissances aveugles et qui sont susceptibles d'être assimilées ou assimilables à quelque chose qu'on pourra appeler ou qu'on appellera un petit peu plus tard l'inconscient. Ce que vous verrez, que ce concept-là est extrêmement flou chez Freud et que Freud lui-même revendique le flou pour ce propre concept. Si vous cherchez une définition précise de l'inconscient, vous n'en trouverez pas. Vous aurez des définitions qui procèdent de la théologie négative. Comme certains qui pratiquent la théologie négative vous disent qu'on ne peut rien dire de Dieu, parce qu'on n'en voit que les effets, eh bien là, on est un peu dans la même logique avec l'inconscient. Et on ne pourrait pas en donner une définition claire et précise. Nous n'en verrions que les effets dans des symptômes. On tâchera de voir donc comment ces instincts de Freud ou ces besoins physiologiques sont transformés ou transfigurés pour devenir une doctrine. Et on aura peut-être moins de temps pour ça, mais ce serait presque aussi un séminaire à soi seul, de voir comment cette doctrine peut conquérir la planète entière. Comment se fait-il que le désir d'un homme, pas de délire, mais enfin que le désir d'un homme puisse devenir une vérité universelle aussi longtemps sur la totalité des continents et aussi vite. L'une de mes hypothèses, vous verrez, c'est que dans la mesure où il est dans une logique pansexuelle, c'est-à-dire qu'il voit de la sexualité partout, de fait, ça fonctionne bien dans un monde où la sexualité est réprimée. Et les gens comme Adler, qui me paraissent extrêmement intéressants, le psychanalyste, et, ou Jung, ou d'autres, ou Reich, plus encore, sont des gens qui ont eu moins de succès parce qu'ils ne rabattent pas tout sur la question édipienne ou sur la question de la sexualité. Mais dans un monde, dans une Europe judéo-chrétienne, ou dans un monde marqué par le christianisme ou d'autres religions, à l'évidence, une philosophie qui libère la sexualité ou qui considère qu'il faut désormais parler d'inceste, de phallus, de clitoris des femmes, etc., enfin qui le dit très précisément, qui théorise un certain nombre de choses sur ce sujet-là et qui ramène toutes les choses aux histoires d'utérus, aux histoires de libido, à l'évidence, c'est un philosophe qui donne l'impression qu'il libère une partie de l'humanité. Mais il y aura, et ça aussi c'est tout un travail à faire, une constitution du freudisme comme d'une église, avec des disciples, avec des apôtres choisis, avec des individus à qui on offre des bagues comme des signes de distinction, avec des intailles qui sont des pièces, des œuvres d'art grec, enfin des objets qui permettent de distinguer les disciples élus, des comités secrets, des revues qui sont créées, les hagiographies biographiques, enfin toutes ces choses pour partir au combat sur la totalité de la planète, un peu sur le principe de saint Paul. On verra que la névrose de saint Paul a pu devenir ce que nous savons avec le christianisme triomphant. Il en va de même avec Freud, et il y a un schéma qui est susceptible d'être superposé à celui-ci. Peut-être le temps est-il venu que je vous parle du déniaisement, puisque je vous dis que j'ai été un certain temps soumis à la vulgate freudienne et que j'ai considéré qu'un certain nombre d'idées freudiennes allaient de soi. Et je me suis dit, eh bien, il faut lire le dossier des antifreudiens. Il y a des noms, on les connaît. Il y a des ouvrages un peu emblématiques. Je songe au livre noir de la psychanalyse. Et je n'avais pas lu ces livres-là au moment de leur parution. Je les avais achetés en me disant, ça fait partie de la bibliothèque. Un jour, je verrai, je regarderai ces choses-là. Et comme je lis beaucoup de presse, eh bien, j'ai lu dans la presse les articles que tel ou tel, pas faire de dénonciation nommément, mais enfin, tel ou tel journaliste ont consacré à ces ouvrages, en considérant que c'était des ouvrages révisionnistes, je tiens au mot, révisionnistes. Alors évidemment, quand on pense révisionnisme, on pense négationnisme, on pense aux gens qui ont dit que les chambres à gaz n'avaient jamais existé, on pense à Forisson, on pense à ces gens qui sont des compagnons de route du national-socialisme et d'Hitler. Donc à l'évidence, révisionniste, déjà le mot est problématique, même si le mot a été utilisé en politique, même si on l'a utilisé ailleurs ou autrement, même si effectivement il y a des définitions qui ne sont pas spécifiquement à mettre en relation avec le nazisme, il n'empêche que pour l'homme du commun, le révisionniste, c'est un personnage qui met en cause l'existence des chambres à gaz. Alors évidemment, à chaque fois qu'on parle de ces gens comme de révisionnistes, il y a toujours une petite note, nous disant que bien sûr, le terme n'a rien à voir avec les révisionnistes qui nient l'existence des chambres à gaz, sauf que le mal est fait. Ça vous dispense d'avoir un procès, parce qu'effectivement, vous avez pris soin dans une note de dire que le révisionnisme en question n'était pas celui auquel on pourrait s'attendre, sauf que, on a commencé à les insulter. On continue à les insulter, ces gens, en disant qu'ils sont antisémites. Ils sont antisémites. Donc on cherche des raisons de trouver de l'antisémitisme ici, là ou ailleurs. On monte en épingle telle ou telle information en disant, eh bien, vous voyez bien, ces gens sont des antisémites. On a dit également, et je vous renvoie à ce dossier qui est assez édifiant, dossier de presse, de la réception d'un certain nombre d'ouvrages, notamment le fameux livre noir de la psychanalyse, on dit également que ce sont des gens qui fricotent avec l'extrême droite. Et c'est assez facile d'aller chercher tel ou tel, je pense à Zwang, je pense à Debré-Ritzen, qui étaient des opposants à la psychanalyse, mais des gens très marqués à droite, pas très loin même d'un certain nombre de thèses d'extrême droite, pour dire, mais vous avez vu, ces gens-là, finalement, procèdent de cette frange d'hommes politiques ou de pensée politique ou de sensibilité politique. Comment peut-on avoir envie de lire des gros ouvrages de 500 ou 600 pages écrits par des révisionnistes antisémites d'extrême droite ou alors conservateurs ou réactionnaires, etc. Je dois avouer que je n'ai pas lu ces ouvrages-là parce qu'effectivement, je lis beaucoup de choses et qu'il y a un moment où on se dit je ne vais pas aller dépenser du temps, de l'argent, de l'énergie à lire des ouvrages dont on me dit qu'ils sont ceux-là. Donc, à l'évidence, j'avais laissé ça de côté. J'ai lu ces livres. Ils disent vrai. À l'évidence, on tombe de sa chaise. Je veux dire que quand on se dit « je vais lire pour le public de l'Université populaire et savoir répondre aux questions qui pourraient m'être posées sur le dossier freudien en disant « voilà, on dit que ceci, on dit que cela, qu'en pensez-vous ?» Je me suis dit ah, « il faut être au courant, je lis ça, je découvre ça et je me dis « si c'est vrai, alors le monde s'effondre, du moins ce petit monde ». Ce petit monde des idées et la place que Freud tient dans cette aventure. Donc il y a une hystérisation, je dirais, de la réception de ces pensées, de ces historiens, la plupart du temps, parce qu'ils nous disent un certain nombre de choses justes, vraies, qu'il s'agit de vérifier. On peut vérifier, c'est pas bien compliqué, ce qui nous est dit. C'est quoi ? Que disent ces historiens ? Eh bien, ils nous disent qu'il y a beaucoup de mensonges et beaucoup de travestissements dans la légende freudienne. Ils nous disent qu'il y a une légende freudienne. Et il suffit d'aller voir les mensonges. On se dit, où sont-ils ? Qui sont-ils ? Ce sont des gens qui renvoient à des lettres, à des correspondances, à des textes. Pour ne prendre que le cas de la cocaïne, Freud a défendu l'usage de la cocaïne et puis il a envoyé un de ses copains à de Patresse. Puis quand il a découvert que les choses étaient comme ça, il a dit qu'il n'avait pas dit ça. Et puis plus tard, il fait disparaître les textes dans lesquels il a dit ce genre de choses. Et puis. C'est vérifiable. J'ai vérifié. Et je vous donnerai les occasions de vérifier au fur et à mesure que nous avancerons dans cette année. Et on découvrira effectivement des mensonges, des travestissements, des dissimulations, des destructions. C'est-à-dire que Freud a racheté des correspondances pour les détruire. Il a lui-même détruit la totalité des correspondances qu'il a pu recevoir. D'autres correspondances qui existent ont des aventures, des trajets incroyables. Je vous raconterai le trajet de la correspondance de Fliss, qui est une mine. Là, pour le coup, c'est une mine, parce qu'on ne peut pas tout détruire. C'est-à-dire que vous pouvez racheter des correspondances, cacher des correspondances, les mettre dans des containers et interdire leur consultation, ce qui est le cas aujourd'hui pour certaines archives jusqu'en l'an 2100. C'est-à-dire qu'il y a des correspondances qui sont interdites jusqu'en l'an 2100. Un immense container avec des correspondances qu'on ne peut pas compulser. D'autres correspondances qu'on peut compulser simplement si on aurait eu l'autorisation des Freudiens orthodoxes. C'est-à-dire qu'il y a des légendes, dit-on, sur le fait que Freud aurait entretenu un rapport adultère avec sa belle-sœur pendant toute son existence. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde et ça le rendrait même plutôt sympathique. Mais c'est vrai ou c'est pas vrai ? Il y a une correspondance. Il suffirait qu'on libère cette correspondance pour savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Voilà, c'est un fait. Je suis pas dans la morale dans cette aventure en disant c'est bien, c'est pas bien, je sais pas quoi, mais enfin ça permet de comprendre un certain nombre de choses. Ne serait-ce que ce tropisme incestueux qui a toujours été le tropisme de Freud, qui, du début jusqu'à la fin, s'est trouvé dans cette logique du désir de la mère, du désir de sa fille, du désir de... Enfin, vous verrez, le dossier est assez effrayant. Pourquoi est-ce que ces correspondances sont impossibles à consulter ? Pourquoi est-ce que des entretiens avec son propre fils sont impossibles à consulter ? Parce que des choses sont dites et qui permettraient de faire de l'histoire. Je pense qu'il y a effectivement une opposition entre un abord historique et un abord hystérique. Abord historique, c'est pas compliqué, on regarde les correspondances, on les lit, on les ouvre, on libère les containers, on laisse les chercheurs travailler, et on obtient, avec la plume fine des historiens, un certain nombre d'informations à partir desquelles les philosophes peuvent faire un autre travail, ou les historiens même de la psychanalyse peuvent faire un travail, et on peut découvrir un certain nombre de choses qui seront cachées derrière la légende. Pourquoi entretenir une légende ? Pourquoi créer une légende ? Pourquoi détruire des documents ? Pourquoi vouloir détruire des documents ? Pourquoi est-ce que, par exemple, Freud veut récupérer absolument les lettres qu'il a envoyées à Fliss ? Quand il meurt, Fliss, sa veuve vend les correspondances, la correspondance à un libraire. Le libraire propose à la vente. Marie Bonaparte essaie d'acheter. Lui dit acheter très vite pour qu'on les détruise. Il faut surtout pas qu'on voit ce qu'il y a décrit là-dedans. C'est du privé, ça regarde personne. Et de fait, quand on voit... La correspondance, quand on lit la correspondance, on découvre effectivement un autre Freud. C'est le bandeau d'ailleurs de cette édition, d'une édition de la correspondance de Fliss, qui pour votre information, a existé pendant très longtemps, expurgé par la propre fille de Freud, Anna, et qui n'a existé en version complète, totale, intégrale et définitive qu'en 2006. C'est-à-dire qu'on ne peut lire la correspondance, enfin les lettres que Freud envoie à Fliss que depuis 2006 en langue française. En 1950, il y a eu une édition choisie par Anna, où évidemment on enlève tout ce dont je vais vous parler, qui sont des choses assez extravagantes, où on découvre un personnage qui croit à la numérologie, à la transmission de pensée, à la télépathie, qui est dans des errances particulières, qui soigne avec de l'électrothérapie, qui utilise un psychrophore. J'étais obligé de chercher ce qu'étaient ces choses-là, mais ce sont des sondes urétrales, c'est-à-dire qu'en 1910, Freud recommande qu'on utilise des sondes pour rentrer dans l'urètre d'un certain nombre d'individus dont le péché est qu'ils se masturbent. Et on envoie de l'eau froide parce que ça leur fait du bien, semble-t-il, 1910. C'est-à-dire que théoriquement, la psychanalyse existe, que normalement, on soigne les problèmes avec le divan, que la cure nous a dit qu'elle était susceptible, enfin que le théoricien nous dit que la cure est susceptible de soigner et de guérir. En 1910, Freud est toujours un individu qui dit « Envoyez-lui la sonde, ça lui fera pas de mal, et ça le dispensera de continuer à s'amuser tout seul. » Évidemment, ce sont des lettres extrêmement intéressantes parce que ça met par terre la légende. On a affaire à un homme, on a affaire aux pérégrinations d'un individu, et ça me paraît intéressant de pouvoir accéder aux archives historiques. On découvre également, ça c'est peut-être plus grave, qu'il a menti sur des cas en nous disant qu'il avait guéri un certain nombre d'individus de Anna O, le premier au dernier, en passant par les grandes psychanalyses. Le petit Hans, le président Schreiber, il l'a jamais rencontré véritablement, mais quand il a utilisé des cas en nous disant qu'il les avait soignés et guéris, on a découvert qu'il n'avait pas soigné, qu'il n'avait pas guéri. Par exemple, si vous prenez le cas de l'homme au loup, Serge Pankejeff, il est mort en 1979, âgé de 92 ans, et il a été psychanalysé pendant 70 ans par presque une dizaine de psychanalystes. Et vous avez un entretien avec le fameux homme au loup, cet entretien de quelqu'un qui a souhaité rencontrer le personnage et qui a souhaité qu'il témoigne sur ce qu'a été sa psychanalyse avec Freud, et il nous fait savoir qu'il n'a jamais été guéri, que les symptômes ont toujours duré. Et qu'une psychanalyse de 70 ans, c'est quand même un peu long. Ça, ce sont des faits. Ça a été publié. On peut trouver aujourd'hui ces ouvrages-là, et c'est même susceptible d'être trouvé aux éditions sérieuses Gallimard. La légende, elle suppose que, par exemple, Freud aurait été un génie solitaire, un inventeur, qu'il n'aurait subi aucune influence, qu'il n'aurait rien lu, rien vu, qu'il n'aurait évidemment pas lu Nietzsche. Vous verrez, le rapport à Nietzsche est assez extravagant. Or, il lisait beaucoup. Il a emprunté beaucoup. Un certain nombre d'individus dont on a perdu jusqu'au souvenir du nom, c'est des individus dont on a pu parler parce qu'ils étaient des psychiatres, des neurologues, des scientifiques, des biologistes du 19e siècle, mais Freud a fait son miel de tout ça, et l'un de ses talents, c'est d'avoir pu renommer des découvertes qui avaient été faites par d'autres. On ne sait pas, par exemple, que le mot « psychanalyse » n'a pas été inventé par Freud. Il n'a pas été inventé par Freud qui lui parle de « psychoanalyse ». C'est pas exactement la même chose. Et il se bat avec un certain nombre d'individus, dont un hypnotiseur suisse qui s'appelle Forel, dont on a totalement oublié le nom, qui lui parle de psychanalyse. Pourquoi ? Je vous dirai pourquoi et comment, mais pourquoi Freud parle-t-il de psychoanalyse alors que d'autres parlent de psychanalyse et qu'on parle aujourd'hui de psychanalyse et que la psychanalyse donne l'impression de n'être que l'invention de Freud, d'être une invention spécifiquement freudienne. On verra ces choses-là. Autre légende, il y aurait un continuum idéologique chez Freud, c'est-à-dire il serait parti modestement de lui-même et puis par un vrai travail sur lui-même, un vrai travail scientifique, d'observation, eh bien il serait parvenu à découvrir une discipline extraordinaire et en fait il n'aurait jamais fait que dévider une espèce de fil bien droit qui l'aurait conduit à cette découverte majeure. Or il y a des errances, et c'est pas grave, il y a des errances chez tous les hommes, mais pourquoi les cacher ? Pourquoi donc on passe sous silence le fait qu'il aurait soigné avec l'électricité, qu'il aurait cru, par exemple, que la cocaïne était la panacée. Pourquoi est-ce qu'il a hypnotisé, qu'il ne parvenait pas à hypnotiser, donc qu'il a changé de méthode? Pourquoi est-ce qu'il utilisait ce fameux psychrophore? Pourquoi est-ce qu'il a, par exemple, cru au cycle chez Fliss, à la numérologie? Il y a une numérologie absolument extravagante. Pourquoi est-ce que il y a des erreurs médicales et pourquoi est-ce qu'il cache les erreurs médicales? Pourquoi est-ce que, par exemple, son ami opère une femme, on reviendra dans le détail de ces choses-là, parce qu'il estime qu'elle est hystérique et il pense que l'hystérie, c'est un problème de nez, qu'il faut opérer le nez. Et cette femme, effectivement, elle commence à avoir des problèmes de santé, elle délire, elle a de la fièvre, etc. Et puis on découvre un jour qu'il reste 50 cm de gaz dans le nez. Et que tout ça commence à pourrir et que, de fait, on peut expliquer que les choses se passent mal pour cette femme-là. Eh bien, on verra comment Freud nie ces choses-là, comment il nie le corps, comment il met de côté ces choses-là en disant qu'il ne s'est pas trompé et que le problème de cette femme, ça reste l'hystérie et qu'elle le désire lui-même et qu'elle a un fantasme particulier et que quand elle a des problèmes, ça n'est pas parce qu'elle a 50 cm de gaz pourri dans le nez, c'est parce qu'elle a justement Freud dans le nez et qu'elle est amoureuse de lui. On verra toutes ces choses-là qui sont clairement dites. Autre légende, cabale contre lui, personne ne l'a aimé, ça a été extrêmement difficile de s'imposer, etc. C'est pas vrai. Les historiens ont fait des travaux et montrent que, de fait, très vite et très tôt, on a dit du bien de son travail. Et moi, j'ai acheté récemment une chronologie de la psychanalyse du vivant de Freud. On est très étonné de découvrir que très vite et très tôt, on parle de lui à Calcutta, on parle de lui au Japon, on parle de lui en Amérique du Sud. C'est-à-dire, il y a des cabales quand même un peu plus violentes que ça et des mises sous le boisseau qui sont plus évidentes que ça. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on découvre tout ça? Est-ce qu'il faut tout jeter? Ou est-ce qu'il faut tout nier? L'abord hystérique consiste à dire « tout ça c'est faux ». Révisionniste, négationnisme, antisémitisme, extrême droite, conservateur, réactionnaire, on laisse tout ça de côté. Et où est-ce qu'il faut dire « bien finalement tout est à jeter chez Freud puisqu'il a beaucoup menti, beaucoup travesti, beaucoup bricolé, beaucoup, etc. etc. » Moi, je pense qu'il faut éviter ces deux écueils-là. Il faut le débat. Il ne faut pas l'insulte, il faut le débat, il faut proposer des faits et il faut essayer d'examiner les faits, y compris avec les gens qui les refusent. Il faut renvoyer à Freud qui lui-même disait que de son vivant lui reprochait des fantaisies spéculatives. Et Freud dit « mais pas du tout, je suis dans la science, dans la scientificité ». Dans son autoprésentation, c'est ma vie et la psychanalyse, hein, moi j'ai travaillé sur l'œuvre complète aux presses universitaires de France, donc les textes ont été parfois retraduits, notamment les titres. Donc quand je parlerai de l'autoprésentation, ça peut être un livre que vous aurez lu sous le titre « Ma vie et la psychanalyse ». Dans l'autoprésentation, il dit, et il parle de la classique manœuvre de résistance consistant à ne pas jeter un œil dans le microscope pour ne pas voir ce qu'ils avaient contesté. Ça, c'est l'histoire de Cremonini et de Galilée. Galilée dit que la Terre tourne sur elle-même, qu'elle est ronde, etc. Vous connaissez l'histoire. On lui dit que c'est pas vrai. C'est pas vrai puisque la Bible ne permet pas de penser ces choses-là. Et Galilée dit « mais regardez dans le télescope, je vais vous en faire la démonstration ». Et les gens disent « on refuse de regarder dans le télescope ». Pour moi, dit Freud, faites la même chose, regardez dans le télescope et vous verrez ma vérité. J'ai regardé dans le télescope de Freud. Et on y trouve quoi? Eh bien des contre-cartes postales. Et donc je serai rapide sur ces cartes postales parce qu'on arrive à la fin de cette heure. La première contre-carte postale, et vous verrez qu'elle renvoie à la carte postale numéro 1, hein. Freud a formulé son hypothèse de l'inconscient dans un bain historique, en plein 19e, en lisant beaucoup, en empruntant beaucoup aux philosophes, Schopenhauer et Nietzsche en l'occurrence, et aussi à beaucoup d'ouvrages scientifiques de son temps. Il faudra donc, non pas considérer que Freud descend du ciel, mais qu'il monte de la terre, et qu'il est à inscrire dans une configuration historique. Contre-carte postale, numéro 2, les accidents de la psychopathologie dont on a pu parler. Actes manqués, lapsus, les oublis, enfin toutes ces petites choses dont on dit que ce sont des moments révélateurs de l'inconscient. Évidemment font sens, mais ils ne font pas sens dans une perspective exclusivement libidinale, autrement dit sexuelle, ou édipienne. À chaque fois que vous avez une plaisanterie à faire, immanquablement, Freud verra que derrière la plaisanterie que vous aurez faite, derrière le mot d'esprit, eh bien vous aurez dit quelque chose qui renvoie à ce fameux tropisme édipien. Non, il n'y a pas de complexe d'Édipe partout. Carte postale numéro 3, le rêve, même chose. Le rêve a un sens, à l'évidence, on ne peut pas dire que c'est rien du tout. On n'est pas trop sûr de savoir ce qu'est ce sens, mais à l'évidence, il n'est sûrement pas à rabattre exclusivement sur la question de la libido et du complexe d'Édipe. Contre carte postale numéro 4, la psychanalyse est une discipline qui relève de la psychologie littéraire. C'est pas honteux, mais ça relève de la psychologie littéraire. Qui procède, cette psychologie littéraire, de l'autobiographie, et de l'autobiographie évidemment de son inventeur, de Freud lui-même. Et elle est évidemment extrêmement efficace, la psychanalyse, pour comprendre Freud, et personne d'autre que lui-même. Vous verrez que les concepts de la psychanalyse sont extrêmement utiles pour penser la vie de Freud, la pensée de Freud, le corps de Freud, la psychobiographie de Freud, voire la psychopathologie de Freud, mais que l'idée qu'on puisse extrapoler un modèle personnel à la totalité de l'humanité est une audace qu'on peut vouloir ralentir, réfréner. Contre-carte postale numéro 5, la thérapie analytique illustre une branche de la pensée magique. Et c'est pas honteux, la pensée magique. Je veux dire, Lévi-Strauss vient de disparaître. Il a consacré des ouvrages à cette pensée magique. Marcel Mauss, avant lui-même, avait écrit des textes sur la pensée magique. La pensée magique est une pensée. Je n'utilise pas le mot pensée magique pour dévaloriser, mais il faut savoir que c'est une pensée magique et qu'elle soigne à l'évidence. Il ne s'agit pas de nier l'hypothèse de que la psychanalyse guérit de temps en temps et dans la stricte limite de l'effet placebo. L'effet placebo, ça existe. Et le fait que vous ayez un certain nombre de béquilles accrochées à la grotte de Lourdes n'est pas une preuve de l'existence de Dieu. Mais c'est une preuve, effectivement, que l'effet placebo, ça peut produire des effets. On verra comment s'articule psychanalyse et pensée magique. Contre-carte postale numéro 6, conscientiser un refoulement, c'est-à-dire dire ce qui a été refoulé en vous et qui a généré un tel type de symptômes, n'a jamais causé directement ou mécaniquement la disparition des symptômes et encore moins la guérison. Ça n'est pas parce que vous savez que vous aurez pu être violé par quelqu'un pendant votre enfance que, une fois conscientisé ce traumatisme, on verrait disparaître les symptômes et vous pourriez être guéri. Ça ne suffit pas, malheureusement, on ne le sait que trop. Carte postale numéro 7, le complexe d'Édipe n'est pas universel. Et on verra qu'en revanche, ça procède d'un souhait, d'un désir typiquement freudien, typiquement personnel, c'est-à-dire qui renvoie à Freud lui-même. On verra aussi quelles sont les conditions historiques qui rendent possible ce désir de sa mère dans une famille recomposée avec des figures et des figurations de beaux-fils qui ont l'âge d'être les pères, qui, etc. Enfin, vous verrez qu'il y a des explications historiques à ce genre d'aventure. Carte postale numéro 8. Je vous disais qu'effectivement, souvent on disait que la résistance à la psychanalyse signalait la névrose. Eh bien, ma proposition est que le refus de la pensée magique n'oblige pas forcément à remettre son destin entre les mains du sorcier. Et on verra pourquoi et comment. Contre-carte postale numéro 9, on a dit effectivement que la psychanalyse était une discipline de l'émancipation et qu'elle était l'occasion d'une libération. On verra qu'il n'en est rien et qu'on a déplacé la logique des contraintes et la logique des règles, que tout ça a produit ce qu'on pourrait appeler le psychologisme ou le psychanalysme, et je reprends le beau mot Castel, Robert Castel, qui a écrit un beau livre sur le sujet, et on verra que finalement le psychanalysme aujourd'hui est la religion séculaire d'après la religion. Contre-carte postale numéro 10, Freud n'incarne pas du tout la philosophie des Lumières, mais ce qu'au XVIIIe siècle on appelait l'antiphilosophie. Je vous dirai ce qu'est cette antiphilosophie, comment elle se présente, et elle propose l'irrationnel pour lutter contre le rationnel. Là encore, je suis nietzschéen, par-delà le bien et le mal, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, je dis simplement que quand on utilise des armes qui ne sont pas rationnelles, mais plutôt irrationnelles, il faut dire qu'on est dans l'irrationnel, ce qui ne discrédite pas pour autant une pensée. La recherche du temps perdu ne s'inscrit pas dans une logique rationnelle, et c'est un chef-d'œuvre tout de même, et on peut en faire de grands usages. Conclusion. Je vous proposerai ce que Freud proposait à l'endroit des philosophes, c'est-à-dire une psychobiographie. Il nous disait que pour les philosophes, mais pas pour lui évidemment, mais pour les philosophes, il fallait effectivement faire un abord psychologique, enfin proposer un abord psychologique qui permettrait de comprendre ce qu'ils sont, d'où ils viennent, ce qu'ils pensent, à quoi ressemble leur concept. On verra, c'est la thèse de cette année, que la psychanalyse, elle est évidemment extrêmement efficace pour rendre compte du trajet de Freud lui-même, mais que l'extrapolation reste problématique. On peut penser que comme le platonisme, le spinozisme ou le nietzschéisme, le freudisme, c'est une vision du monde, comme une autre. On n'est pas obligé d'être spinoziste, on n'est pas obligé d'être nietzschéen, on n'est pas obligé d'être freudien, on peut l'être. Et il y a des usages, d'une certaine manière, ce sera à vous de voir les usages que vous voudrez faire de Freud en fin d'année, sachant ce que vous saurez, ayant appris ce que vous aurez appris. Et je conclurai en extrapolant à partir d'une phrase de Nietzsche, une phrase de l'Antéchrist. Nietzsche nous dit « Au fond, il n'y eut qu'un seul chrétien et il est mort sur la croix ». Je pense qu'on pourrait dire « Au fond, il n'y eut qu'un seul freudien et il est mort dans son lit le 23 septembre 1939 à Londres ». Ce ne serait pas bien grave si le Christ et Freud n'avaient eu des disciples et ne s'étaient constitués comme une religion. Et vous savez très bien que je n'aime pas beaucoup les religions. D'aucuns se souviennent peut-être du traité de la théologie qui était sous-titré « Physique de la métaphysique ». Je proposerai cette année une physique de la métapsychologie, mais nous sommes toujours dans cette perspective athéologique. Je vous remercie. Alors, bibliographie. C'est un livre de Michael Borch-Jacobsen, et de Sonu Samdazani, Le dossier Freud, enquête sur l'histoire de la psychanalyse. C'est chez un éditeur qui s'appelle Les Empêcheurs de penser en rond, qui est un éditeur sérieux. Du même Michael Borch-Jacobsen, ce livre qui s'appelle Souvenir d'Anna O, dont je vous ai parlé tout à l'heure, le sous-titre est clair, Une mystification centenaire, chez Aubier. Donc, Borch-Jacobsen, je vous invite à le lire. Vous retrouverez quelques pages de lui dans ce fameux livre noir de la psychanalyse, qui est sous-titré « Vivre, penser et aller mieux sans Freud », et qui est un ouvrage qui a été publié sous la direction de Catherine Meyer, avec donc Michael Borch-Jacobsen, Jean Cottreau, Jacques Van Rilaer, et puis Didier Pleu, avec lequel je suis rentré en contact, et qui est psychologue à Caen, et qui fait un travail extrêmement intéressant sur la question, sur cette question-là, sur cette démystification, sur cette démythologisation, et en particulier sur Françoise Dolto. Et puis je vous parlais de Pankejeff, qu'on appelle l'homme au loup, puisque c'est le titre de cette fameuse psychanalyse que Freud lui consacre. Eh bien, vous avez cet entretien avec Karine Obolzer, entretien avec l'homme au loup, où vous avez l'homme qui parle. Là, pour le coup, c'est l'individu qui vous dit ce qu'ont été ses psychanalyses, les échecs, ce que Freud lui a dit, comment les choses se sont passées avec les psychanalystes qui n'ont pas été Freud, puisque Freud est mort et que lui a duré longtemps, je vous dis 92 ans, donc il a eu le temps d'en voir beaucoup d'autres. Et vous avez là des confessions à prendre en cause, en compte. Et bien, c'est ce que fait Patrick Mahony, donc psychanalyste toutefois, mais vous avez des psychanalystes qui sont soucieux d'histoire, beaucoup plus d'histoire que d'hystérie, et c'est tout à leur honneur. Et le travail de Mahony s'appelle « Les hurlements de l'homme au loup », et effectivement, il montre comment cette psychanalyse, eh bien, effectivement, elle est un peu percée et qu'elle fuit dans pas mal d'endroits. À vous de voir si, finalement, il faut tout jeter ou tout garder ou tout conserver. Ce que je vous propose, c'est effectivement un examen qui vous permettra de vous faire vos propres idées par vous-même. Voilà pour la bibliographie.